Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga. Me serrer la main. Me serrer la main. Me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Aurélia a connu 3 accouchements et chacun d'entre eux a été unique et mémorable. Sa première fille est arrivée avant terme, sa deuxième est arrivée en un éclair et son troisième accouchement a malheureusement été traumatisant. Elle souhaitait un accouchement physiologique dans une salle nature et avait rédigé à 4 mains avec son mari leur projet de naissance. La maternité choisie était tout à fait adaptée, le projet a été validé et même agrafé à son dossier pour que la sage-femme présente le jour J puisse prendre connaissance de ses souhaits. Tout avait bien démarré, la confiance était installée, Aurélia était parfaitement détendue, on lui a fait couler un bon bain, la sage-femme était adorable, bref, tout s'annonçait pour le mieux. Mais le temps passe et c'est bientôt l'heure du changement de garde. Une nouvelle sage-femme arrive et l'ambiance devient glaciale. Tout le projet de naissance d'Aurélia s'écroule et elle est victime de violences obstétricales. Dans cet épisode, Aurélia nous raconte son évolution dans la maternité au fil de ses accouchements, comment elle s'est préparée à donner naissance une troisième fois dans la bienveillance et pourquoi rien ne s'est passé comme prévu. Bonne écoute.
Bonjour Aurélia.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Ben, merci beaucoup de m'inviter.
Alors, tu es la maman de 3 enfants.
Oui.
Il y a 2 filles et un petit garçon.
Exactement, qui ont 6 ans, 3 ans et 9 mois.
Et alors, avec toi, on va aborder le sujet notamment des accouchements.
Ouais.
J'ai eu 2 accouchements à peu près de rêve et le dernier qui a été un petit peu plus chaotique. Mais avant ça, on va reparler donc de ton entrée dans la maternité. Est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle t'aspirais depuis toujours?
Ouais. J'ai toujours eu ça en moi. J'ai l'impression d'être née pour être mère, quoi. Depuis toute petite, vraiment, c'était quelque chose qui était très important. Je m'imaginais, moi, je suis issue d'une fratrie de 3 enfants. J'imaginais pas avoir moins de 3 enfants. Depuis petite, je m'imagine toujours avec plein d'enfants, etc. Donc, ça vraiment, ça me tenait beaucoup à cœur et j'ai su très jeune que je voulais être maman dans la mesure du possible jeune. Mes parents eux-mêmes m'ont eu très jeune et voilà. Et en fait, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari à 17 ans et très rapidement on aspirait à faire notre vie ensemble et on a su qu'on s'était trouvé. Et assez rapidement, je me suis dit que voilà, déjà lui aussi voulait être père, ce qui était très important évidemment pour moi. Et ensuite, ça s'est enchaîné. On s'est marié à 24 ans et on a eu notre première fille. Moi, je suis tombée enceinte à 26 ans et j'ai accouché quand j'avais 27 ans. Et voilà. Et pour moi, c'était en effet important d'avoir des enfants jeunes dans la mesure du possible.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
Écoute, cette première grossesse, elle s'est passée. Elle s'est bien passée. Moi, j'ai toujours fait des menaces d'accouchement prématuré pour les 3. Donc, la première s'est bien passée jusqu'à 6 mois. 28 semaines et un jour exactement. Je me souviens très bien d'être débarquée à la maternité après avoir fait un malaise. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on m'a... c'est une interne qui m'a dit « Non, mais là, votre col, ça ne va pas du tout. Il est très raccourci, tout mou. » Enfin, voilà. Et en fait, c'était donc il y a 6 ans et demi. Et entre-temps, les protocoles ont beaucoup changé. Mais à l'époque, on alitait vraiment complètement. Donc du coup, j'ai été alitée juillet, août, septembre. des mois super sympas pour être alitée à Paris. En plus, on faisait des travaux dans notre appart. Enfin bon, c'était vraiment la totale. Et donc, vraiment alitée sans pouvoir poser le pied par terre pendant 2 mois et demi.
Tu bossais à ce moment-là?
Alors, j'étais à mon compte. Enfin, j'étais freelance, donc je bossais encore dans la com à ce moment-là. J'étais freelance, mais j'étais un peu tout arrêté à ce moment-là, et je me suis dit que bah ce serait un congé maternité à rallonge, et j'en ai profité pour faire des choses un peu pour moi aussi, pour me poser avant l'arrivée de mon premier enfant. Après, c'est sûr que c'était compliqué parce qu'en plus, à 26 ans, on a encore tous nos copains qui partent en vacances, tous ensemble, etc. Et puis moi, j'étais un peu coincée à Paris. Et voilà. Et donc, du coup, cette grossesse, ce bébé était très, très attendu. Donc, on a eu très peur quand même à 6 mois, puis on n'y connaissait rien. Donc, moi, j'entendais menaces d'accouchement prématuré. Je pensais que j'allais accoucher le lendemain. Après mon hospitalisation, enfin, vraiment, on a eu extrêmement peur. Puis après, au fil des semaines, on s'est un peu calmé. Ce qui est sûr, c'est que cette première grossesse, on était vraiment les tout premiers à avoir un enfant dans notre entourage. Et du coup, bah, j'étais assez isolée sur toutes ces questions-là. Surtout, j'y connaissais pas grand-chose, à part cet instinct que je sentais très fort en moi. Mais sinon, voilà. Et comme moi, je suis assez entière et j'aime bien tout connaître, tout savoir, j'ai beaucoup lu. C'est pas forcément quelque chose que je recommanderais aujourd'hui aux futures mamans de premier enfant, parce que en fait, à force de trop lire, très souvent dans ma maternité aujourd'hui, je me dis que il faut, j'apprends de plus en plus à faire place au bon sens et à mon intuition. J'ai beaucoup appris ces dernières années là-dessus, et à pas uniquement se dire j'ai lu ça donc il faut faire ça, on m'a dit ça donc il faut faire ça. Et c'est vrai que ma première grossesse, je l'ai beaucoup passée comme ça. Donc,
du fait que t'étais alitée, tu penses que tu t'ennuyais peut-être aussi un peu.
Bah, du coup, ça m'a aussi plongée dans un monde de grossesse pathologique. Donc, je me suis renseignée là-dessus. Donc, j'ai été hospitalisée quelques jours. On m'a fait j'avais des perfs pour le cortisone pour les poumons du bébé. J'avais moi pour stopper mes contractions, etc. Et donc j'ai appris ce que c'était vraiment qu'un col, parce qu'en fait on te parle de col, mais tu sais pas vraiment ce que c'est qu'un col ouvert, pas ouvert, voilà, ce que, enfin comment ça se formait, tout ça. Donc même anatomiquement, en fait, j'ai appris plein de choses à ce moment-là. Et ce qui est assez particulier dans une MAP, donc une menace d'accouchement prématuré, c'est que on te dit que tu peux te relever au bout de 8 mois plein, enfin donc un mois avant la date de terme. Donc en l'occurrence, moi c'était pour le 15 octobre, donc c'était le 15 septembre. Et on te dit, si ça se trouve, vous allez accoucher le 15 septembre en vous levant, et si ça se trouve, ça va durer longtemps, quoi. Et moi, la spécialité de mes 3 enfants, c'est que je me suis levée le jour où j'avais le droit de me lever, et qu'ils sont arrivés, 6 jours avant le terme, ou 7 jours avant le terme. Enfin, voilà. Donc, en fait, j'ai eu 3 semaines où tous les jours, je me disais, ça va être ça, ça va être ça. Et en fait, les 3 grossesses, j'ai eu des contractions à partir de 3-4 mois de grossesse. Donc j'ai un utérus contractile, et du coup on ne sait jamais si les contractions agissent ou pas sur le col. Donc finalement on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu 3 bébés en pleine forme qui sont arrivés à terme, mais il y a toujours eu ça un petit peu, voilà. Et pour la première, c'était vraiment vraiment flippant, quoi.
Et alors la rencontre avec ton premier bébé,
c'est magique. Et je pense que la rencontre avec le premier, les 3 rencontres sont magiques, et franchement je pourrais les revivre tous les jours hormis les aléas de Tours. Mais c'est sûr que la première fois qu'on te pose un bébé qui va bien sur toi et que tu te sens maman, il y a un truc de, t'es submergé, quoi. Donc ça se passe même de mots, et j'ai souvent des copines qui me disent c'était comment, et en fait c'est, tant qu'on l'a pas vécu, ça, c'est indescriptible, quoi. Et donc c'était ça a été un superbe moment. Elle avait plein de cheveux, donc j'ai pas compris pourquoi on l'a voulu lui faire un shampoing tout de suite, mais bon, on lui a fait un shampoing tout de suite. Ça nous a marqué avec mon mari, parce que après coup on s'est dit, enfin pourquoi en fait, fallait qu'elle soit propre. Bon, c'était le premier truc, voilà. Et l'accouchement s'est passé rapidement pour un premier, parce que j'ai perdu les os à 1h du matin, elle est née à 7h, donc 6h, montre en main. J'ai bien géré les contractions, j'ai une péridurale à je suis arrivée à 4 cm à la maternité, j'ai eu une péridurale vers 5-6. Et ensuite, je suis passée de 6 à 10 en l'espace d'une heure. Et voilà, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Elle est née rapidement, j'ai pas beaucoup poussé, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir souffert. Je suis complètement laissée guider par les sages-femmes et par l'équipe de l'hôpital. J'y connaissais pas grand-chose en fait à ce moment-là, donc je faisais confiance et en fait, quand on racontera mes accouchements après, surtout le troisième, c'est que là, j'ai accouché sur le dos avec une péridurale, ce qui est ce que je ne voulais plus ensuite. Mais sur le coup, je me suis pas posé la question et j'ai été respectée dans ce choix que j'avais d'accoucher normalement entre guillemets. Donc, je l'ai pas du tout mal vécu en fait. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Il n'y a pas, voilà, j'ai pas eu une déchirure, mais pas eu de complications spécialement après. Et tout de suite, j'ai plongé dans le bain de la maternité, de la parentalité, parce que, voilà, sans repenser à mon accouchement particulièrement.
Tout s'était bien passé,
ou en tout cas, comme je le voulais à ce moment-là, et donc respecté dans mes choix. Et c'est surtout ça qui me marque aujourd'hui à la lueur de ce qui s'est passé plus tard.
Ouais. Et donc, tu me disais, en revanche, l'allaitement, ça avait été un peu compliqué.
Oui, la mise en place de l'allaitement a été compliquée. J'ai accouché dans une maternité qui accompagnait pas beaucoup à ce niveau-là. Et en fait, la première tétée a été, on m'a pas aidé à positionner mon bébé. Et moi, je savais pas du tout qu'il y avait une question de position dans l'allaitement. Donc, je l'ai mise au sein pendant 45 minutes sur le même sein. J'ai eu deux crevasses et ensuite, ça a été un peu la descente aux enfers. J'ai eu une hyperlactation, donc trop de lait. Et en fait, on pourrait croire que c'est cool d'avoir trop de lait, sauf que en fait, ça fait des engorgements, j'ai fait plusieurs mastites où j'avais de la fièvre, etc. Donc ça a été assez compliqué. Et ensuite, j'ai fait appel à une consultante en lactation, mais un peu trop tard, enfin à un mois, et j'étais déjà épuisée, j'en avais déjà marre, donc j'ai arrêté. Enfin, je suis passée au mixte à un mois. Et ensuite, j'ai continué un petit peu le mixte, mais rapidement, on est passé au lait artificiel. Et ça a été le point de départ pour moi d'une réflexion de mes prochains allaitements, s'il y en a, ou les conseils que je donne à celles qui me demandent sur l'allaitement, c'est vraiment de se renseigner avant. C'est pas inné, c'est pas du tout inné, l'allaitement. On pense que c'est inné parce qu'on voit les images d'Épinal, des mamans qui mettent leur bébé au sein, et oh, on a l'impression qu'elles ont aucune douleur, aucun truc, et voilà. Et de se faire accompagner, de se faire aider, soit par des professionnels, des consultants en lactation qui sont formés pour ça et qui, heureusement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc voilà, c'est un cadeau de naissance que je fais parfois quand je sais que la personne que je connais qui accouche a envie d'allaiter. Et sinon, d'avoir... moi, pour mon deuxième allaitement, j'avais ma copine référente qui était une maman qui avait allaité 6 mois et qui habitait... C'est une de mes très bonnes amies qui habitait à l'époque en Autriche. Et en Autriche, c'est très différent, la vision de l'allaitement. Et du coup, elle m'a énormément aidée sur tous les petits trucs, Et c'était mon soutien, c'était ma hotline, en fait. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir un deuxième allaitement super. Et voilà, donc... Donc non, c'est pas inné l'allaitement, on ne le répétera jamais assez.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman en rentrant à la maison?
Ouais, je me suis sentie à l'aise. On est deux pour tout. On a un partage vraiment très équitable. On est très engagés d'ailleurs sur ce sujet-là, mon mari et moi. Et du coup, c'est vrai que... On a toujours tout partagé, alors sauf voilà l'allaitement. Mais bon, je me suis jamais sentie seule dans ma maternité et même au début, j'ai pas eu l'impression de. Et d'ailleurs, quand ma fille est née, j'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose ou quelqu'un. Enfin, quelqu'un, oui, mais c'était. J'étais pas gauche quand je la prenais, j'étais pas voilà le truc qui nous avait le plus étonné, c'était le méconium. La première couche de méconium toute noire, où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon bébé, ça va pas du tout, ce qui se passe dans ses intestins, jusqu'à ce qu'on t'explique. Mais sinon, sur la maternité en soi et le lien, par exemple, j'ai jamais eu cette cette question-là à me poser, et j'ai beaucoup de chance là-dessus, parce que ça, même mon troisième accouchement qui a été très dur, le lien avec mon bébé n'a jamais été altéré, quoi. Et ça, c'est une grande chance, parce que c'est vraiment pas le cas de tout le monde.
Et donc, du coup, pendant que t'étais alitée, toi, tu me disais que tu t'étais pas mal documentée parce que tu connaissais pas grand chose. Ouais. Et t'as fait aussi appel à une conseillère?
C'est ça. J'ai fait appel à une consultante périnatale, ou qu'on appelle aussi baby planner. Et du coup, qui nous a accompagnés sur tous les sujets plutôt d'organisation. Autour de l'arrivée du bébé, donc que ce soit le matériel, que ce soit les modes de garde, tu vois, plein de choses vraiment sur l'organisation pure, tout ce qui n'était pas médical en fait. D'un point de vue médical, j'avais ma gynéco et j'avais ma sage-femme qui était géniale et qui venait chez moi, etc. Et d'un point de vue plus d'organisation, j'avais cette consultante là, et du coup en plus de toutes les lectures que j'avais des informations qui arrivaient, donc à la fin j'étais blindée d'infos, quoi.
Et donc là, après l'arrivée de ton premier bébé et suite à cette consultante que t'avais conseillée, tu décides aussi de changer de secteur dans ton travail.
Exactement, je décide de me consacrer à la parentalité et la future parentalité, et donc je me suis formée pour devenir moi-même consultante périnatale ou baby planner. Donc je me suis formée et en fait la formation, elle t'apporte encore plus d'informations sur tout ça, et ça m'a permis surtout de rencontrer plein de monde dans ce domaine-là, et de pouvoir discuter et de pouvoir me rendre compte que la façon dont je vivais moi ma parentalité, ou dont j'avais vécu ma grossesse, ou dont on l'avait vécu même en couple, c'était pas forcément la norme, c'était pas forcément qu'il y avait plein de façons d'autres de le vivre. Et j'ai notamment entre mes deux premières grossesses, j'ai notamment beaucoup appris et je me suis beaucoup informée sur l'accouchement. Et sur notamment l'accouchement physiologique, qu'est-ce que c'était qu'une péridurale, pourquoi on faisait des péridurales, est-ce qu'on pouvait faire sans, sur tout ça. Et ça m'a passionnée, en fait. Ce sujet-là m'a vraiment vachement intéressée. Ensuite, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, je me souviens que c'était pas au tout début de la grossesse, mais vers 4-5 mois, j'ai vu ma sage-femme qui me faisait aussi de l'acupuncture, et elle m'a dit « Bon, Ria, cette fois-ci, sans péri. » Je lui ai dit « Non, jamais. » Et en fait, en sortant de la séance, je me suis dit « Bah... » pourquoi pas. Elle me dit, enfin, Aurélia, franchement, vous avez accouché 6 heures porte à porte, votre première s'est sortie hyper bien, si vous faites pas sans péridurale, qui va pouvoir le faire? Et je suis sortie, je me souviens d'avoir appelé mon mari, il avait dit, bon, la sage-femme vient de me dire ça, et là il m'a dit, non, c'est pas possible. Et donc je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que moi, enfin, te voir souffrir comme ça, sans pouvoir, sans qu'il y ait quelque chose qui puisse t'aider à ça, c'est impossible pour moi, c'est impossible. Et il était vraiment paniqué encore plus que moi. Et en fait, je lui ai dit, mais attends, c'est une préparation d'accoucher sans péri, ça aussi. Bon, tu peux ne pas avoir le choix. Mais quand c'est un choix depuis le départ, en fait, on t'accompagne à ça, on te prépare à ça. La sage-femme, elle va nous faire des séances à deux. Et puis moi, je vais me renseigner, encore une fois, etc. Donc du coup, on est parti sur ce chemin-là. En plus, j'ai eu une grossesse où j'étais pas forcément très bien psychiquement à ce moment-là. Enfin, j'avais un peu des coups de mou, etc. Donc, ça m'a permis de reprendre vraiment possession de mon corps, de sentir ce bébé, de faire quelque chose avec ce bébé aussi, et de pouvoir l'accueillir. Avec un projet différent de sa sœur aussi. C'est vrai que ça m'a, quand j'ai su que c'était une deuxième fille, j'avais tellement d'amour et de j'avais tellement de sentiments énormes pour ma fille aînée que je voulais qu'il y ait des choses qui soient différentes. Donc j'ai pour vraiment différencier dans ma tête aussi les deux choses-là. Et donc j'ai choisi une autre maternité aussi. Une maternité, pourtant une très grosse maternité à Paris. puisque c'était à Necker, mais où je savais que ce projet-là pouvait être entendu par l'équipe de sages-femmes. Je savais qu'il y avait des sages-femmes qui étaient... voilà, et ma sage-femme, d'ailleurs, libérale, venait de là-bas, enfin, en tous les cas, les connaissait bien. Et du coup, voilà, donc on est parti sur ce chemin-là. Moi, je me suis renseignée sur l'hypnonaissance. C'est pas la préparation qu'on a faite, mais c'est ce qu'on a... j'ai lu pas mal de choses, et notamment sur la gestion de la douleur. Et en fait, j'ai appris énormément de choses sur le pouvoir de l'être humain, qui est incroyable, et du corps. Alors, j'ai une tolérance à la douleur très haute. Je m'en suis rendu compte lors de mon premier accouchement, parce que la péridurale a peu fait effet, en fait. Mon premier accouchement, c'est ça aussi. Et j'ai vraiment pas eu des douleurs atroces. Les suites de couches, pareil. Et d'ailleurs, la sage-femme, je me souviens, m'avait dit, enfin vous êtes pas vraiment, vous êtes pas douillette quoi. J'aime pas cette expression là, mais ça m'avait marqué parce que du coup ça m'a permis dans ma deuxième préparation de me dire bah je suis capable de le faire parce qu'en plus je pense que je vais gérer la douleur. Donc voilà, on a fait cette préparation, j'ai appris les fameuses vagues de contractions, comment les gérer. Alors c'est très particulier à gérer quand on n'est pas dedans. Mais en même temps, comme j'ai mon utérus contractile, j'avais tout le temps des contractions, des fausses contractions. Donc bon, bah au final, je pouvais m'entraîner. Pareil, menace d'accouchement prématuré. Là, j'étais un peu perturbée parce qu'on n'allaitait plus. Donc en fait, j'avais un col encore plus court que pour mon aîné. Mais on m'a dit, non, mais pas d'allaitement, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer votre vie normale, juste vous faites attention. Donc j'ai dit, attendez, moi, j'étais hospitalisée la première fois en mode branle-bas de combat. Et là, vous me dites, bon, ok, donc il a fallu que mon cerveau switch et voilà. Et du coup, donc je suis quand même restée très calme. On m'avait quand même dit de rester le plus calme possible. Donc je suis restée calme sur la fin. Quand je me suis levée, évidemment, elle n'est pas du tout arrivée. Quand voilà, j'ai eu deux épisodes de faux travail où je suis arrivée à la maternité, on m'a posé le monitoring, on m'a dit allez courir, n'importe quoi, allez marcher 2 heures, revenez, elle va arriver. Que dalle. Les contractions s'arrêtaient net. Bon. Voilà. Et puis, le 25 juillet 2017, on regardait une série. Et puis là, je me dis, c'est bizarre quand même, ça me fait de plus en plus mal. Mais encore une fois, et ma sage-femme m'avait dit, attention Aurélia, à votre tolérance à la douleur. Parce que comme vous pouvez aller loin, attendez le maximum, mais allez-y quand même à un moment, quoi. Je me souviens que je lui ai envoyé des textos, je lui ai dit, bon, là, je suis à toutes les 10 minutes. Elle m'a dit, non, attendez 7 minutes et tout ça. Puis quand même, il y a un moment où je pouvais plus parler. Et là, je sais que c'est le signe. On peut plus parler, faut y aller. Donc, on y est allé. Moment de grosse émotion parce que ma fille aînée rentrait à ce moment-là avec la nounou. Et du coup, on lui dit au revoir en sachant que, enfin, c'était un moment assez fort. On part, on arrive là-bas. Là, je me sens pas bien du tout. Et là, la sage-femme me dit, ah là, vous allez accoucher. Je dis oui, je pense, en effet. Ils me mettent dans une salle d'examen. Et là, elle regarde, elle me dit, bah, vous êtes à 10, en fait.
Ouais.
D'accord, je suis à 10. Donc là, en fait, une espèce de panique. Vraiment de panique. Et en plus, dans ces cas-là, l'équipe, c'était une jeune sage-femme ou une aide-soignante, je sais pas très bien. Et elle était dans son protocole. Et donc, elle me dit, non, mais vous ne pouvez pas accoucher dans cette salle-là. C'est pas possible. Il faut accoucher dans une salle de naissance. Je dis, oui. Elle me dit, là, vous êtes aux urgences. Je dis, oui, mais là, j'ai le bébé. Enfin, je sais pas comment faire. Et après, elle regarde ma prise de sang. Tu sais, on fait une prise de sang péri, qui est valable 30 jours. Et elle me dit, oh, ça fait 31 jours que vous l'avez fait. Il faut que je vous la refasse tout de suite. Je dis, mais là, de toute façon, je vais pas avoir de péridurale. Elle me dit, ah, vous prenez pas la péridurale? Je dis, non, mais de toute façon, c'est pas possible. J'ai même pas le temps de la poser, ma péridurale. Oh. Donc voilà, donc là on m'a assise sur une chaise roulante, donc imagine-toi assise sur une chaise roulante avec le bébé qui arrive quand même, donc j'ai traversé le couloir, je pense que j'ai fait peur à beaucoup beaucoup de femmes qui étaient sur mon passage, et je suis arrivée dans la salle de naissance, et là il était, donc je suis partie de chez moi à 18h45, je suis arrivée à la maternité à 19h05 et à 19h35 elle était là quoi.
Ouais.
Donc le truc, ça m'émeut forcément, mais voilà, elle est arrivée hyper vite, hyper bien. En fait, quand je suis arrivée dans la salle de naissance, elle m'a dit, vous vous mettez comme vous voulez. Donc je me suis mise sur le côté, c'était instinctif, je me suis mise sur le côté, elle s'est mise face à moi, elle m'a fait pousser. Je me souviens même plus de sa tête, de la sage-femme, j'étais même pas déshabillée. Enfin tu vois, c'était un truc... elle est arrivée, donc encore une fois... un moment magique et en fait alors en l'occurrence j'aurais pas pu avoir de péridurale, donc mais le fait d'avoir été préparée, j'étais quand même, si tu veux, j'étais vraiment, j'avais pas peur en fait. J'avais pas peur. Je savais que j'étais capable de le faire. Donc il y a pas eu, il y a eu la panique de le bébé arrive tout de suite et c'est quand même bizarre un accouchement aussi rapide parce que ton cerveau a pas le temps de se faire à l'idée que le bébé va arriver. Si tu veux, 35 minutes, c'est hyper rapide. Donc c'est ton corps et ton cerveau, il y a un truc qui fonctionne pas. Et en plus, comme je m'étais préparée à accueillir les contractions et tout, j'étais là-dedans. Tu sais, quand je suis arrivée dans la salle, j'étais en train de me dire respire et tout. Et à un moment, il y a la sage-femme et mon mari d'ailleurs qui m'ont dit en fait t'arrêtes et tu cries, tu lâches tout, tu pousses, tu cries et tu la sors. Et donc là, ça m'a libérée. Mais sur le coup, j'étais en train de me dire attends, il faut que j'accueille la contraction qui arrive. Sauf que là, t'es plus dans le, enfin t'as passé tous les stades, t'es en train d'accoucher quoi. Donc voilà, donc ça c'était assez fou. Alors ça reste un je vais pas dire traumatisme, surtout par rapport à ce qui s'est passé ensuite, mais je vais dire que après on a quand même eu plusieurs jours pour atterrir et plusieurs semaines en se disant ça aurait pu arriver n'importe où en fait. Elle aurait pu arriver dans la voiture, elle aurait pu tu vois, avec une espèce de d'impression d'avoir frôlé un truc pas cool, enfin de c'était quand même très rapide. Enfin, si tu veux, on est arrivé à la maternité, 2 heures plus tard, on était en chambre avec notre bébé. Bon. Voilà. Donc, on a grosse euphorie au début et après un petit coup de, qu'est-ce qui nous est arrivé? Voilà. Et puis après, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que, je sais pas, une demi-heure plus tard, j'étais debout, quoi. J'étais debout. Ah oui. J'ai pu aller, enfin, on m'a emmené en chaise roulante aux toilettes, tu vois. On a voulu m'aider pour aller aux toilettes et je leur ai dit non, non, c'est bon, merci. Je peux faire les derniers pas. Je me souviens de la douche que j'ai prise à 22h, tu vois, elle est née à 19h30 et j'étais évidemment t'es endolorie, je vais pas te dire que voilà, mais tu sens tout, tu sens tes jambes, enfin j'ai adoré cette sensation d'avoir mon corps pour moi tout de suite et de pas demander trop d'assistance non plus. Alors c'était mon deuxième hein, mais tu vois, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment adoré dans le fait d'accoucher sans péridurale, c'est que la récupération après est quand même plus rapide.
Et toi, en parallèle, là, du coup, tu accompagnais déjà des futures mamans ?
Ouais, j'ai accompagné des futures mamans et des jeunes, enfin des futurs parents d'ailleurs, parce que c'était intéressant aussi de les voir en couple quand c'était le cas. Et c'est en fait à ce moment-là, au moment où j'ai eu ma deuxième fille, je commençais déjà à m'intéresser à un peu plus loin. Déjà, c'est très chronophage et très c'est affectivement un peu lourd parfois parce que les histoires de grossesse sont pas forcément simples, parce que il y a plein de choses qu'on te raconte, qu'on voilà, et moi étant dans naturel un peu où je prends beaucoup, bon, il a fallu que je mette de la distance affective à un moment, et en plus mon ambition derrière c'était quand même plutôt d'accompagner les entreprises, parce que c'était là où je voyais qu'il y avait un problème. Si tu veux, tous les parents que j'accompagnais, et notamment les mères, il n'y a pas une seule mère que j'ai accompagnée qui m'a pas dit la reprise du boulot ça me fait peur, ou qui m'a pas dit j'ai peur, enfin j'ai envie de me reconvertir. Enfin, en fait c'était un sujet à la conciliation vie pro vie perso qui m'a pris aux tripes. Donc je me suis engagée à l'époque, c'était dans le réseau Maman Travail, je me suis engagée là-dedans et j'ai beaucoup, enfin j'ai œuvré à leur côté et là encore une fois j'ai découvert un nouveau monde de beaucoup plus engagé et voire militant, mais c'est ça qui me plaisait aussi là-dedans, c'était toute ça, cette recherche de l'égalité, du fait qu'il n'y ait pas de raison que ça se passe comme ça, et du fait que il n'y a pas de raison que les mères triment autant et que leur carrière soit aussi impactée, et d'autant plus que et en fait très vite je me suis dit mais le problème il vient pas forcément des mères ou des parents, il vient des entreprises, et je pense que plutôt que de taper sur les entreprises, je pense qu'elles sont juste pas informées, pas au courant. Alors, évidemment il y a toujours des gens mal intentionnés, mais je pense aussi qu'il y a une réalité économique qui est claire et qui fait que s'ils sont pas informés, pas rassurés et pas formés dessus, bah ils peuvent pas en fait accompagner leurs salariés, ils savent pas comment faire. Donc du coup j'ai un peu modulé mon métier d'accompagnement aux particuliers en faisant de l'accompagnement aux entreprises et ensuite de l'accompagnement aux managers. et voilà. Et du coup, il fallait toujours qu'il y ait un lien avec la parentalité, tu vois. Et aujourd'hui, je m'apprête à rebifurquer un petit peu parce que la crise est passée par là, très clairement. Mais dans ce que je projette et ce que je module encore un peu, il y a toujours la parentalité. C'est impossible pour moi. Enfin, c'est le fil rouge de ma vie en fait, y compris professionnel et d'engagement et de. C'est même au-delà de ce que je vis personnellement, c'est un vrai engagement sociétal, la parentalité pour moi, et l'égalité derrière femmes-hommes, etc. Mais aussi mais avec ce lien vraiment fort avec la parentalité.
Et alors donc suite à cet accouchement express, j'imagine que pour le projet du troisième, c'était évidemment un accouchement physiologique.
Ouais, c'était évidemment un accouchement physiologique. Alors, on a déménagé entre-temps, on est parti en banlieue parisienne. Volontairement, je dirais pas où j'ai accouché pour le troisième, parce que je veux absolument, comme je vais parler de mon accouchement qui a été en effet chaotique, je veux absolument faire la part des choses entre la personne qui m'a accouchée et la maternité qui, pour le coup, était extraordinaire. Et c'est très important. Je trouve que dans ces sujets-là, on a tendance à faire beaucoup d'amalgames, et moi, c'est très important de pas en faire. Et je continuerai à conseiller aux gens d'accoucher là-bas. Donc, on est parti en région parisienne, et j'avais plusieurs hôpitaux à proximité. Il y en avait un très physio, je savais, mais un tout petit peu plus loin. Et comme j'ai accouché en 45 minutes de ma deuxième, j'avais ma grosse peur, c'était de pas arriver à temps à la maternité. C'était ma crainte de la grossesse. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que quand on est enceinte, quand c'est pas sa première grossesse, je trouve que les petits traumas qu'on a pu vivre dans nos grossesses d'avant, ils reviennent. Et donc moi, ça m'est remonté cette espèce de peur, un peu. Je me réveillais la nuit en me disant, un peu en sueur, en me disant, j'espère que je vais pas accoucher là dans mon lit, enfin que ça va pas arriver trop vite, que j'aurai pas le temps d'aller à la maternité, etc. Donc je savais qu'il fallait quelque chose de proche. Alors j'habite tout près d'une grosse maternité et c'est pas celle que j'ai choisie parce que justement celle-là accompagnait pas de façon assez physio. Donc j'ai choisi un entre-deux qu'on m'avait conseillé. J'ai eu des professionnels de cette maternité au téléphone entre-temps, et j'ai tout de suite senti une grande écoute, une grande bienveillance là-bas. On a fait de l'aptonomie pour cette troisième grossesse avec une médecin qui était extraordinaire, hyper drôle et hyper sympa.
Tu peux rappeler ce que c'est l'aptonomie?
Oui, bien sûr. Alors l'aptonomie, c'est compliqué à décrire de façon académique, mais en gros, c'est de créer du lien avec l'enfant in utero, de la mère et du second parent. Et donc ça passe beaucoup par le toucher, par la parole, par les positions, par les postures, etc. Et donc c'est aussi une façon de se préparer à l'accouchement, parce que elle nous montre des postures, elle nous montre des façons de respirer, elle nous explique le cycle de la douleur, et moi je l'ai fait dans un but d'accoucher encore une fois de façon physiologique, et aussi d'appréhender cette crainte que j'avais d'accoucher trop rapidement, de façon trop violente. Et on a fait un projet de naissance. Et là, on a fait un projet de naissance qu'on a rédigé à quatre mains, donc mon mari et moi, on y a beaucoup réfléchi. On a réfléchi à ce qu'on voulait mettre dedans, mais en plus, on a beaucoup réfléchi à la façon dont on l'écrivait, parce que il était hors de question que l'équipe médicale le reçoive comme un dû et comme quelque chose qu'on imposait, mais c'était vraiment des orientations qu'on voulait prendre avec toutes les précautions d'usage qui sont d'usage au jour d'un accouchement. Je savais très bien que le jour J ça pouvait se passer différemment, donc en plus dans ma tête je savais très bien que le jour J ça pouvait se passer différemment. Je me suis pas dit en arrivant à la maternité je veux accoucher comme ça, etc. J'accoucherai comme ça coûte que coûte et tout ça.
Donc, t'avais mis quoi par exemple dans ton programme?
Alors, les choses principales, c'est que je voulais accoucher dans la salle nature.
Ok.
Je voulais accoucher dans la position que je voulais. Ça, c'était extrêmement important pour moi.
La position, c'était sur le côté.
Je savais pas très bien, mais je voulais qu'on me laisse le choix sur le moment de trouver ma position, si tu veux.
D'accord.
Okay. En fait, c'était ça surtout. Et surtout pas sur le dos. Ok. Parce que pas sur le dos, ça je voulais pas. Je voulais qu'on me laisse au maximum. Je savais que là où j'accouchais, ils avaient un monitoring ambulatoire, donc je voulais qu'au maximum je sois pas accrochée pour que je puisse continuer à marcher, alors c'était avant le Covid hein, aussi tout ça, donc je sais très bien que tout ça a bien changé depuis. je voulais qu'on me prévienne des actes qu'on me ferait, et je voulais être actrice de mon accouchement, qu'on m'impose pas des choses sans que je les comprenne. Tu vois, c'était un peu là-dessus. C'était très important pour moi d'être actrice de ce moment-là et de pas me laisser faire. Voilà, que ce soit moi qui accouche et pas qu'on me fasse accoucher. Tu vois, ça c'était important, et c'était ce qu'on avait écrit. Et puis une place importante pour mon mari aussi. Ça, c'est ce qu'on demandait. Mais pareil, je savais que dans cet endroit-là, ce serait respecté. Tu vois, enfin.
Parce que ça se passe comment en fait? T'envoies ton projet de naissance?
Alors non. Enfin là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai imprimé en plusieurs exemplaires, et en fait au rendez-vous prénataux que j'avais là-bas avec les sages-femmes. Je le présentais et elle le lisait avec moi. Et en fait, on a eu 3 rendez-vous prénataux avant l'accouchement, où 3 sages-femmes différentes ont lu mon projet de naissance, ont tiqué, enfin tu vois, ont coché tous les trucs et ont signé, alors qu'elles sont pas du tout obligées de le faire, en disant carrément, enfin super, en plus on adore ce genre d'accouchement, etc. Les 3 ont signé, contre-signé, contre-signé. Et en fait, même l'anesthésiste que j'ai vue, elle m'a dit non mais super, nous les accouchements sans péridurale, c'est génial, vous êtes complètement capable de le faire. Je savais que c'était aussi une maternité qui était très, qui accompagnait beaucoup à l'allaitement derrière. J'avais d'ailleurs été en contact avec la consultante en lactation de là-bas. C'est une maternité où ils donnent un bandeau, tu sais, c'est comme c'est l'espèce de truc, de tube là où tu découpes les bonnets des bébés, et ben ils te donnent ça pour toi pour faire un bandeau de peau à peau, tu vois, juste après la naissance. Donc vraiment, j'étais dans un environnement pour moi, enfin voilà, le meilleur environnement qui soit. Et donc voilà, donc on m'a bien sûr dit, bah évidemment, ça dépendra du jour J. Et moi, ma crainte, c'était de tomber sur une sage-femme qui, soit qui s'y connaissait pas, soit qui voulait pas, soit etc. Et on m'a dit, franchement, il y a toujours 3 ou 4 sages-femmes de garde. Quand bien même, il y en aurait une, en fait, celle qui se sent le plus à l'aise avec la salle nature, elle prend la salle nature, en fait. Donc, vous inquiétez pas, il y en aura toujours une. Et ça ne se passe jamais une garde où il y a les 4 sages-femmes qui sont contre les accouchements physio et qui, du coup, etc. Donc, je me suis pas posé plus de questions que ça.
Et on t'avait pas dit que potentiellement, la sage-femme connaîtrait pas ton projet de naissance. Il est pas transmis à ce moment-là.
Non, mais en l'occurrence, je sais que la sage-femme qui m'a accouchée a eu connaissance de mon projet de naissance puisqu'elle me l'a dit. Donc en fait, il est agrafé dans ton dossier. Et à chaque visite, ils le relisent avec toi. Et le jour de l'accouchement, la sage-femme qui t'accouche, elle le lit. Et ensuite, elle vient te dire s'il y a 2-3 trucs qui, elle, avec lesquels elle est pas très à l'aise. Et après, tu discutes, tu vois, si jamais t'as le temps de discuter ou t'as le, je sais pas quoi, ou si, mais bon, on m'avait, encore une fois, ça avait été tellement, puis à chaque, tu vois, je suis allée plusieurs fois aux urgences parce que pareil, à la fin, j'avais un épisode de faux travail. Et à chaque fois aux urgences, c'était même pas une question. Enfin, c'était alors madame, on vous prépare la salle nature ou... Tu vois, c'était ouais. Vraiment, c'était au contraire, et ils étaient contents d'accompagner des femmes dans ces projets-là. Donc
tout était voilà. Clair, le projet était clair pour
tout était clair. Il restait l'inconnu du jour J, évidemment. Mais encore une fois, j'étais confiante, ou en tout cas, je me disais qu'il fallait l'être parce que ça servait à rien de flipper avant. J'étais confiante. Sur le fait que, enfin, c'est pas ça qui me faisait peur. J'avais plus peur d'accoucher dans ma voiture que d'avoir un accouchement, pas respectueux ou qui se passe mal, tu vois. Donc, on est parti à la maternité le 12 février cette année. Donc, je sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais je savais pas trop quoi. Et en arrivant là-bas aux urgences, les contractions s'arrêtent. Évidemment, ça c'était ma spécialité, donc je me dis c'est pas possible, j'ai encore repartir. Bon, et là la sage-femme me fait la test du liquide amniotique et me dit ah non madame, en fait vous avez fissuré, donc vous allez rester. Et donc là je m'effondre en larmes, je me dis oh là là, c'est maintenant, c'est dingue, c'est fou, etc. Et donc elle me dit son fameux on vous prépare la salle nature, est-ce qu'on vous fait couler un bain? Alors je dis ah bah ouais carrément. Donc là j'ai été reçue mais comme une reine, quoi. Franchement, dans la salle nature, incroyable, une sage-femme d'une gentillesse, une jeune sage-femme, voilà, qui m'installe. J'ai même eu le droit de manger. J'ai dit que j'avais faim, ils m'ont apporté un plateau repas. Alors, pas trop de trucs, tu vois, parce qu'en fait, il faut faire attention à l'estomac et à pas trop vomir, notamment. Donc, du coup, elle m'a apporté des trucs digestes, mais bon, j'ai eu le droit de manger. Mon mari, a pu aller s'acheter un truc à côté, etc. Et j'étais, et là, j'étais bien, en fait, parce que j'avais des contractions, mais qui n'étaient pas si douloureuses que ça. Et je me souviens même qu'elle, donc, en fait, dans la salle nature, t'as deux parties. T'as même des toilettes pour toi toute seule, ce qui est quand même ouf. T'as deux parties. T'as une partie de salle classique, donc, avec la table telle qu'on la connaît, enfin, tous les instruments, tout ça. Et t'as à côté, la salle nature en elle-même, où t'as une baignoire profonde et, où tu peux prendre un bain et un sofa, comme un lit rond. Et donc t'es comme dans une chambre, c'est vraiment dingue. Et je me souviens même qu'elle m'a dit bon, prenez votre bain. Par contre, si les contractions s'accélèrent vraiment vraiment, vous me prévenez parce que c'est pas une baignoire d'accouchement, donc il faudrait que je plonge pour aller chercher votre bébé. Donc ce serait plus, vous seriez mieux plutôt sur le sofa, etc. Mais elle m'a dit vous accouchez là où vous voulez, comme vous voulez. Enfin voilà. Donc là il était 13h. 14 heures, je sais plus, et voilà. Et donc pendant les heures qui ont suivi, bon, à chaque fois elle m'auscultait et elle me disait bah ça avance pas trop, bon ça avance pas trop. Et bon, en fait là où ce qu'elle a oublié de me dire, c'est que mon bébé était positionné la tête vers le ciel. Je crois que ça s'appelle en version postérieure. Et on sait que c'est des accouchements qui sont souvent plus longs et plus douloureux. C'est que je crois 6% des accouchements, que j'ai pas eu de bol, mais et ça elle me l'a pas dit. En fait, c'est vrai que si jamais elle me l'avait dit, j'aurais pu trouver des positions un peu, tu vois, pour faire un peu bouger le bébé. Donc là, bon, je me suis pas inquiétée de ça, mais je sentais bien quand même que ça mettait beaucoup plus de temps que pour mon deuxième accouchement, évidemment, mais même que pour mon premier, et que ça stagnait. Et je pense qu'en fait, j'ai eu un truc à ce moment-là. J'ai eu tellement peur que l'accouchement soit trop rapide et violent que je retenais un peu, tu vois. J'étais un peu dans le contrôle. Donc, j'ai fait vachement les lianes. Hein, j'ai trouvé ça génial de suspendre et tout ça. On a regardé une série. On a discuté. Tu vois, on n'était pas encore fixé sur le prénom. Donc, voilà, on savait pas si c'était garçon ou fille. Donc, on faisait un peu, tu vois, on écrivait des messages. Enfin, franchement, on était hyper bien, quoi. Voilà, donc elle m'a très bien accompagnée. Et à 20h, relève de garde. Et là, bon, la sage-femme qui m'avait suivie depuis le début est pas venue me dire au revoir. Ça, c'était un peu bizarre, c'est vrai, mais je pense qu'elle a oublié, tu vois, pas de... Enfin, voilà. Et arrive une sage-femme de 55 ans, enfin vraiment de fin de carrière. Et le premier truc qu'elle me dit, c'est « Je vous préviens, j'aime pas la salle nature. » Ok, bon. Et j'ai lu votre projet de naissance. Écoutez, je suis pas contre, mais sachez un truc, c'est que moi, c'est sur la table, debout, parce que c'est pas possible. En fait, pour mon confort, c'est impossible que ça se passe autrement et autre part, etc. Et en l'espace de 5 minutes, elle m'avait placé les mots de césarienne d'urgence, d'épisiotomie, en me disant, moi, je vous préviens, les femmes, elles crient tellement quand je leur dis que je vais faire une épisiotomie que je les préviens pas, parce que comme ça, au moins, elles crient pas et... Ok. Et en fait, mon mari a tenté la discussion à ce moment-là en lui disant, mais bien sûr, enfin, je comprends très bien qu'il faille que vous soyez confortable et parce que c'est aussi sécuritaire pour ma femme, etc. Mais juste, enfin, pourquoi le sofa, ça vous ennuie tant que ça, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus exactement les mots qu'il a dit. Et elle lui a dit, parce que je suis beaucoup trop vieille et je sais pas. Imaginez là, regardez cette salle là. Imaginez là, il y a du sang partout. Vous imaginez si votre femme fait une hémorragie, comment ça se passe? Imaginez le sang là partout. C'est bon, vous avez imaginé? Bon, bah voilà, vous voyez maintenant.
Ah là là. Ouais, donc elle arrivait en mettant une ambiance glaciale.
Glaciale. Alors, glaciale. Très bien. Là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, relève de garde, enfin, sauf si vraiment il est long à sortir, ça va être elle qui va m'accoucher. Donc j'ai commencé à écrire des textos à une ou deux amies, voilà, à mon aptothérapeute en lui disant qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit, ok, tu te mets dans ta bulle avec lui, tu penses que, enfin, vous pensez à vous avec votre bébé et tu oublies ce qu'elle te dit à côté, etc. Donc, j'ai essayé de faire un peu ça. Elle revenait pour m'examiner, je pense toutes les heures. À chaque fois, elle me faisait un mal de chien. Elle ne me demandait même pas si elle pouvait m'examiner, ça va sans dire. Malheureusement, et il y a une fois où je lui dis mais ça avance un peu, elle me dit ah non ça avance pas du tout, j'ai même l'impression qu'il recule. Ah bon, c'est mal barré alors. Elle me dit non là vraiment il est coriace, hein. Bon, Et elle me dit, et là, elle, c'était vers 23h, 23h30, et elle me dit, de toute façon, vous savez, hein, les femmes qui accouchent dans cette salle, elles croient toujours qu'elles peuvent accoucher sans péridurale, mais en fait, elles n'y arrivent pas. Enfin, les femmes peuvent pas accoucher sans péridurale. Je lui dis, bah, je l'ai déjà fait une fois, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Elle me dit, non, mais je vous dis, enfin, voilà, elles pensent toujours qu'elles y arrivent, et en fait, bah, elles finissent toujours par prendre la péridurale. Bon, ceci dit, un discours comme ça, moi, je comprends qu'elles finissent par prendre la péridurale. À minuit, elle me dit, bon, est-ce que vous voulez que je perce la poche des os? Elle me demande quand même, ça ira plus vite, etc. Et je lui ai dit, bah, oui, je veux bien. Elle m'a dit, par contre, je vous préviens, ça va être très violent. D'accord. Bon. Donc, elle perce la poche des os, évidemment, donc sur la table classique. Et voilà. Et là, s'en suit, comme après une rupture de poche des os, donc 2 heures de contraction hyper intense et hyper forte, très douloureuse. Mais je les gérais. Enfin, là, pour le coup, j'étais très concentrée et je gérais les fameuses vagues. Elles étaient rapprochées de, je sais pas, 2-3 minutes. Elles me faisaient super mal, mais je tenais bon et c'était hyper important pour moi de tenir bon. Elle est arrivée à ce moment-là en me disant, vous voulez toujours pas la péridurale? Parce que là, quand même, je dis non, je veux toujours pas la péridurale pour l'instant, en tout cas. Elle me réausculte, elle me redit que ça n'avance pas, que ça stagne, et je pense que j'étais à 6, et 6, elle me dit, vous savez, 6, hein, c'est le pire moment, hein. Oui, je sais bien, merci. Et on dit souvent que dans les accouchements sans péri, quand tu passes 6-7, ça va mieux. Derrière, elle est à une phase de désespérance à 6-7, et en fait, moi, ça faisait 2 heures que j'étais à 6, et là, si tu veux, c'est mon cerveau qui a pris le relais pour le coup, et qui s'est dit, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver parce qu'en fait elle est tellement oui, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que avant qu'elle me perce la poche des os, elle m'avait déjà dit une fois qu'elle était en fin de carrière, qu'il lui restait 15 jours, qu'elle en pouvait plus, que c'était un métier horrible, qu'elle faisait que des gardes de nuit depuis 10 ans, donc elle avait pas de vie de famille, c'est ce qu'elle me disait, et en fait moi, je me suis mise dans une posture d'écoute à ce moment-là, ce qui peut paraître aberrant, mais je me suis dit, si je suis gentille et empathique avec elle, eh ben, elle va bien me traiter, ou moins mal. Donc, mon mari me regardait avec des yeux, l'air de dire, mais enfin, vous voyez, en fait, arrête de lui poser des questions. Et moi, je disais, ah bon, c'est si dur que ça, etc. En plus, moi, le sort des sages-femmes, et c'est pour ça que c'est important pour moi de parler aujourd'hui avec tout le mouvement qui se passe en ce moment, le sort des sages-femmes m'a toujours énormément affectée, et je suis très engagée là-dessus, et je trouve qu'elles sont trop maltraitées, que le système les broie, et vraiment, je suis la première à les défendre, donc en plus, voilà, donc je me suis mise dans une posture d'écoute, et sauf que ça n'a pas du tout fonctionné pour la suite, et donc au moment où si je refais un petit bond en avant, et qu'on se retrouve à mes 6 cm, voilà, je me suis dit, elle me maltraite là depuis de nombreuses heures. J'avais conscience, hein, pendant l'accouchement, que c'était pas normal, hein, ce qui se passait. C'est ma grande chance, je pense. Je suis en mode surempathie avec elle et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Et en plus, j'ai mal. Et j'ai très très mal. Et il faut au moins qu'on m'enlève un des trucs. On peut pas m'enlever la sage-femme. On avait essayé, hein, on a essayé d'aller voir dans les couloirs s'il n'y avait pas une autre sage-femme de garde, etc. Sauf que c'est super compliqué parce que imagine, tu ne trouves pas de sage-femme et elle sait que tu veux changer. Moi, j'avais trop peur qu'elle s'en prenne encore plus à moi. Tu es dans un moment de vulnérabilité, mais terrible. Et tu ne vas pas sortir dans la rue à 6 cm. Donc, en fait, tu es coincé. Tu es coincé. Tu as beau être informé, tu as beau avoir tout fait, tu es coincé. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, à mes 6 cm, je me suis dit, ben, il faut au moins que j'ai plus de douleur. Donc j'arrêtais pas j'hésitais entre je prends pas la péri. Il faut savoir que j'ai peur de la péri. C'est même pas que une question de tu vois, c'est pas un principe de pas prendre la péri, ou c'est pas un retour à la nature, etc. C'est pas du tout ça. C'est comme ça me fait peur. Et du coup j'ai fini par lui dire écoutez, je vais prendre la péri, en pleurs. Et elle me dit, bah vous voyez, je vous l'avais bien dit que vous allez finir par la prendre. Bon, vous avez quand même bien tenu, parce que je peux vous dire que d'habitude dans cette salle elle beugle.
Oh là là.
Donc, ok. Et là, donc arrive l'équipe d'anesthésie. Donc là, une espèce de bulle de bienveillance pendant 20 minutes. Des gens absolument adorables, heureusement. J'ai essayé de lancer des appels au secours des yeux, mais j'étais trop dans mes contractions pour que ce soit visible. Et ils ont commencé à demander à mon mari de sortir. Là, mon mari leur a dit, c'est pas possible du tout. Et ils ont dit, Non, d'accord, ok. Ok, vous restez. Donc, il a pu rester, heureusement, parce que franchement, là, c'était trop. Et puis, j'ai eu la péri. Je me suis mise sur la table, classique, du coup. Là, je pouvais plus trop bouger. Et donc là, évidemment, les douleurs se sont calmées. Donc, j'ai pu reprendre un peu mes esprits. Mais je me suis retrouvée sur la table, sur le dos, et je me suis dit, bah, à tous les coups, en fait, je vais devoir accoucher sur le dos. Et c'est ce que je voulais pas. Donc, je lui ai dit, excusez-moi, s'il y a juste un truc, est-ce que c'est possible, d'accoucher pas sur le dos? Elle m'a dit, on verra, mais c'est quand même beaucoup plus pratique sur le dos, mais bon, je veux bien essayer. Et au moment de la pousser, j'essaierai de vous faire vous déplacer. Donc, je me suis dit, ah, bah, super. Et voilà. Donc là, deux heures de contraction, mais beaucoup plus cool avec la péri. Je me suis remis une dose à un moment parce que j'avais mal. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que quand t'as passé autant de temps sans péri et qu'on te met la péri, c'est tellement un soulagement que dès que t'as la moindre douleur un peu forte qui revient derrière, tu remets une dose. Ouais. Donc, j'en ai remis une. Et puis, à un moment, puis là, elle revenait régulièrement. Elle me disait ce qui se passait dans les chambres d'à côté. Enfin bon, c'était hallucinant. Et pareil, elle repart dans son laïus de c'est vraiment horrible. Je suis à bout, je suis épuisée. Mais d'un point de vue, avec beaucoup d'agressivité, tu vois. Et ouais. En fait, évidemment que c'est hyper triste la vie de cette femme et voilà. Mais c'était tellement pas le moment. Il fallait que je reçoive ça. Et moi, j'arrivais pas à ne pas l'écouter et à ne pas lui parler, quoi.
Elle te parlait de ses dossiers aussi.
Ouais, elle me parlait. Elle me disait, tu vois, elle regardait le monitoring. Elle me disait, le monitoring donc de la salle d'à côté. Elle disait, ah, ça va se terminer en césarienne celui-là. Non, c'est pas possible. Oh là là, le rythme qui ralentit. Et tout. Moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Elle parlait pas de mon bébé. En plus, tu vois, elle parlait d'une autre femme. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et oui, cette histoire de dossier, c'est qu'en fait, au moment où j'ai senti que ça poussait, très clairement. Hein, et donc, je lui ai dit, ça pousse. Et là, elle m'a dit. Non, par contre j'ai encore deux dossiers à finir, donc c'est pas du tout le moment, donc je vais aller finir mes deux dossiers et vous me rappellerez. Et elle est partie. Et là, et ça poussait, et donc j'ai fini par la rappeler 3 minutes après, et elle arrive, elle me dit, mais vous êtes vraiment pas sympa, je vous ai dit que sinon je pourrais pas finir ma garde à temps et que du coup je pourrais pas rentrer chez moi à temps, etc. Et je lui dis, mais je vous dis qu'il est là. Et donc elle soulève le drap, elle me dit ah ouais, en effet il est là, bon bah on va s'installer. Ah bah merci, ouais. Et donc là, elle appelle une puéricultrice et qui, à mon avis, était son acolyte depuis 30 ans. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, c'était un peu les deux terreurs, quoi. Et elle arrive, la puéricultrice se met à côté, etc. Et là, elle me dit allez-y, poussez. Voilà. Et donc, je lui dis, est-ce que je peux me mettre autrement que sur le dos? Elle me dit non, on est parti comme ça, ça va être comme ça. Donc là, en fait, ça a été un des trucs les plus durs, c'est qu'elle n'essaye même pas de me mettre sur le côté alors qu'il y avait le temps, parce que je savais très bien qu'à partir du moment où ça démarrait la poussée, surtout sous péridurale, ça allait mettre 15-20 minutes, tu vois, donc elle avait le temps. Et du coup, là, elle m'a dit non, on a commencé comme ça, c'est plus simple pour moi. C'était toujours pour elle, en fait, tu vois, c'était toujours pour elle. Et là, elle me dit, il sort pas. Donc elle se lève et elle appuie de toutes ses forces sur mon périnée, en se mettant debout et en appuyant de tout son poids. Et elle demande à la puéricultrice de m'appuyer sur le ventre. Et là, je lui ai dit, c'est hors de question. Et là, j'ai hurlé, je lui ai dit, non, pas mon ventre, pas le ventre, il va sortir, de toute façon, il va sortir. Il y en a déjà deux qui sont sortis, tout va bien, il va sortir, quoi. Et elle lui disait, elle parlait à mon bébé en disant t'es en train de faire mal à maman, il faut que tu sortes maintenant, je te préviens, si t'es pas sorti dans 5 minutes je te mets de l'ocytocine, fais attention, enfin, tu vois, vraiment le sketch. Voilà. L'accouchement se passe, le bébé sort, moment magique. En fait, là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et dans celle de mon mari. Je pense qu'on s'est mis dans une espèce de bulle, tu sais. J'ai l'impression d'être dans un filtre Instagram avec des petites étoiles partout, tu vois, où on me met mon bébé sur moi et où je me dis c'est fini, c'est bon. J'ai mon bébé et là, on se met dans notre bulle en essayant d'oublier ce qui se passe autour. On découvre que c'est un petit garçon, voilà. Et alors, en le sortant, elle m'a quand même dit « Ah, il est bien dodu, celui-là. Bon, il fait 3,5 kg. » Pas non plus. Voilà. Et puis là, donc on me laisse mon bébé un peu en peau à peau. Et là, elle commence à... Donc, elle, il y a la délivrance du placenta. Et ensuite, elle regarde et elle me dit... elle me dit... ah, mais c'est un champ de mine. Hein. C'est un champ de mine, là. Ah non, mais là, je ne vous raconte pas. Hein. Vous êtes dans un état. Mais comment, en fait, tu peux dire ça, enfin, alors qu'en plus, c'est ton fait, là, quand même. Enfin, je n'ai pas besoin non plus de me violenter comme ça physiquement. Donc voilà... elle me...
Quand elles ont appuyé sur ton périnée, elle t'a expliqué quoi ? Enfin, qu'est-ce que... C'était quoi la raison ?
C'était pour... en fait, c'était pour élargir, tu vois, pour que le bébé sorte. C'était pour élargir le trou, quoi. Enfin, tu vois, et pour que...
Il y avait une urgence
Non, il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Mon bébé allait très bien. C'est juste que c'était pas rapide. Enfin, tu vois, je pense qu'elle voulait que ça aille plus vite ou que... alors, j'avais mal. Oui, j'avais mal. La poussée était douloureuse pour moi. Donc, ça devait être un mélange pour elle d'impatience et de peut-être de vouloir me soulager, je sais, tu vois, de ma douleur aussi. Je sais pas, il y a dû y avoir un espèce de truc, mais il y a un espèce de vent de panique qui s'est créé alors qu'il n'y avait aucune raison médicale. Enfin, je ne suis pas médecin, mais ni même sage-femme. Mais tu vois, il n'y avait pas de... On m'a alertée sur rien du tout. Et du coup, donc elle m'a nettoyée, etc. J'avais l'impression que, franchement, elle me passait du papier de verre. C'était atroce. Elle était d'une même dans le l'après, elle a été extrêmement violente. Et j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. Et quand ça a été terminé, quand elle a fini de me recoudre, je me suis mise à pleurer et j'ai dit à mon mari maintenant, il faut qu'elle s'en aille et il faut qu'on remonte. Il faut qu'on monte en chambre. Et c'est, en fait, c'est le premier truc que j'ai, c'est quand tout a été terminé, que j'ai osé lui dire un truc à elle. Enfin, dire un truc sur elle, en tout cas. Et dire que c'était plus possible, quoi. Donc, on m'a remonté en chambre, je pense, un peu avant 2 heures. Là, j'ai une faille spatio-temporelle, mais comme beaucoup après les accouchements, on sait plus trop, hein. Donc on est venu me chercher dans une chaise roulante. J'ai pris l'ascenseur pour être remontée en chambre et dans l'ascenseur je me suis mise à pleurer. En fait, ma chance dans toute cette histoire là quand même, c'est que j'ai tout de suite su que c'était pas normal et j'ai tout de suite su qu'il y aurait un après et qu'il faudrait que j'en parle et qu'il fallait que ça se sache, tu vois. Et tout de suite je me suis dit, je viens de subir des violences. Ouais. J'ai pas eu de doute là-dessus. Donc je suis montée. Par contre j'étais tellement faible, enfin je m'étais tapée quasiment, enfin je sais même plus le nombre d'heures, entre 12 et 15 heures d'accouchement, dont 10 heures extrêmement intenses, violentées, enfin tu vois, j'étais dans un état physique terrible, et donc j'arrivais même pas à prendre mon bébé dans les bras, mais c'était pas une question de lien, tu vois, c'était vraiment physiquement j'y arrivais pas, quoi. Et donc on est remonté en chambre, il est né à 5 heures, donc on est remonté vers 7 heures. Et après, j'ai passé toute la journée à pleurer dans les bras de mon mari. On a eu, encore une fois, là, de la chance que ce soit avant le Covid, donc il a pu rester. Et en fait, c'est une maternité aussi où les papas peuvent rester la nuit. Il y a un lit pour eux, à côté. C'est trop bien. Ouais. Donc, du coup, il était prévu, on avait mis nos filles chez mes parents, et il était prévu qu'ils restent les 3 jours de la maternité avec moi. Enfin, qu'il fasse des allers-retours si tu veux, mais bon, là, vu l'accouchement, en fait, il a pas été question d'autre chose qu'il reste avec moi. Et je pouvais rien faire, tu vois, je pouvais rien. Mes parents voulaient venir me voir, j'ai pu les voir que quelques jours après. Même mes filles, c'était compliqué pour moi de les voir. J'étais tellement. Alors, elles sont quand même venues ce jour-là, mais elles sont venues 5 minutes, montre en main, et juste pour la rencontre. Et j'étais vraiment pas bien. Je pleurais.
Et t'en avais parlé avec ton mari ? Vous avez échangé sur tout ce qui s'était passé à ce moment-là ?
Alors, oui, bien sûr. Oui, en remontant, je me suis effondrée. Et la première phrase que je lui ai dit, c'est je ne m'en remettrai jamais. Et là, on a discuté et il a pu aussi... Enfin, il m'a beaucoup, beaucoup écouté, etc. Et je lui ai dit, mais toi, tu l'as vécu comment ? Il m'a dit, franchement, c'est pas le moment d'en parler. On en parlera plus tard pour moi, mais c'était atroce. L'impuissance que j'ai ressentie de te voir te faire, parce que là je parle beaucoup de moi et tout, mais pendant tout ça il était très actif aussi à côté de moi, et il était et plusieurs fois en fait je l'ai calmé pendant l'accouchement parce que je sentais qu'il allait vraiment s'énerver, quoi. Et je lui ai dit, je t'en supplie, le fais pas, t'énerve pas, te la mets pas à dos, parce qu'encore une fois je veux pas qu'elle soit encore pire avec moi. Au final je sais pas si ça aurait été pire ou pas, mais sur le coup je voulais pas rentrer dans un rapport de force avec elle. Et donc là, j'en ai parlé, etc. Il a été super soutenant. Il m'a tout de suite dit, enfin, faut que t'en parles, faut que tu vois quelqu'un, faut qu'on en parle, voilà. Et en fait, j'ai essayé d'en parler un tout petit peu dans la journée aux professionnels qui passaient dans la chambre, mais c'était un espèce de va-et-vient. Puis tu vois, c'était mon troisième, donc évidemment, les professionnels s'arrêtent moins dans ma chambre, mais c'est normal qu'une prime y part. Donc, et en fait, c'est à 22h, où il y a une sage-femme qui est venue pour me donner de l'ibuprofène, tu vois, parce que j'avais très mal, et qui s'est assise à côté, qui m'a dit « ça va ?» Et là, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit « ça va pas du tout, ça va pas du tout ». Et excuse-moi. Et là, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a pris la main et elle m'a écoutée. Et du coup, je lui ai raconté l'accouchement. Et en plus, j'arrêtais pas de lui dire « je sais que c'est une question de personne, je sais que c'est une question de moment, je sais que c'est une femme qui souffre, je sais, mais moi en fait j'ai vécu ça et ça peut pas, c'est pas possible. » Et surtout, si tu veux, j'avais ce truc là de « moi j'ai vécu ça » et le truc de « je veux pas que d'autres femmes le vivent, tu vois, il faut l'arrêter quoi. Il lui reste 15 jours mais il faut l'arrêter, c'est pas possible. » Et là elle m'a dit écoutez, moi ça fait très très longtemps que je travaille avec elle, je sais qu'elle va pas bien là en ce moment, je sais qu'elle est en dépression, c'est totalement inadmissible ce qui s'est passé, c'est totalement anormal, il y a rien qui justifie, rien qui voilà, je veux absolument que vous voyez la psychologue de l'hôpital, parce que je veux que vous laissiez cette histoire à la maternité, en tous les cas une partie de l'histoire, je veux pas que vous repartiez chez vous avec tout ça. Et du coup ça m'a aussi ça m'a tellement soulagée d'être écoutée par des professionnels, en plus par le même corps de métier, tu vois, donc elles auraient pu se défendre l'une et l'autre, enfin, et donc là je me suis dit waouh, bah je me suis pas trompée d'endroit déjà, tu vois, c'est fou hein, parce que je venais de vivre ça, mais je me suis dit bon bah voilà, au moins j'ai vécu ça dans l'endroit où il fallait que je le vive, s'il fallait que je le vive. Et et après du coup ça a libéré ma parole et j'ai pu en parler, déjà j'en ai parlé quand on me demandait comment ça allait autour de moi, je disais ça va très bien, mon bébé va très bien, moi je vais très bien, enfin je vais bien, mais l'accouchement a été horrible. Et l'accouchement a été très dur, j'ai subi des violences. Je disais juste ça. Et c'était important déjà pour moi d'oser le dire, et parce que ça, du coup ça le faisait exister. Et ensuite j'en ai parlé à la psychologue de l'hôpital, et très vite derrière en rentrant chez moi, où j'ai vu que c'était en train de devenir un traumatisme, j'ai décidé de me faire vraiment aider. Ça a mis un peu de temps parce que déjà en fait 15 jours après mon bébé a eu une bronchiolite, 15 jours après la naissance, donc gros flip, et 15 jours encore plus tard c'était le 15 mars et on a été confinés. Donc c'était une période dense, on va dire. Donc on s'est retrouvés enfermés à la maison. Alors on a beaucoup de chance, on a une maison et tout ça, mais avec les trois enfants dont un nourrisson, moi qui me remettais à peine, j'ai eu quasiment aucune visite. En fait, du coup, il y a des gens qui n'ont pas jamais vu mon bébé parce que j'ai eu très peu de visites le premier mois tellement j'étais meurtrie et tellement je pouvais voir personne. Et ensuite, on a été confinés, tu vois. Donc en fait, mon bébé, on l'a découvert assez tard autour de moi. Et donc pendant le premier mois, j'étais vraiment pas bien. Encore une fois, j'avais conscience que c'était pas normal. Et tout de suite, déjà, on me l'a dit à la maternité, toutes les sages-femmes géniales que j'ai vues après et la consultante en lactation qui m'a suivie encore longtemps après, m'ont dit, il faut que vous écriviez une lettre à la chef de service, au directeur de l'hôpital et à la chef des sages-femmes. Donc je l'ai fait en triple, enfin on l'a fait encore une fois. Alors moi j'ai écrit une longue lettre où j'ai tout expliqué ce qui s'était passé de façon très factuelle, parce que je voulais surtout pas que ce soit pris, enfin tu sais, j'avais un peu peur du truc de la chef de service qui se dit c'est bon, elle vient d'accoucher, elle est sous hormones, elle est un peu émotive, elle a pris les choses très à cœur quoi. Donc je voulais absolument qu'il y ait le moins d'émotions possible dans ma lettre et que ce soit vraiment très factuel de ce qui s'était passé, pour se rendre compte à quel point c'était aberrant. Donc j'ai fait ça et mon mari a écrit une petite lettre à côté, comme donc on a envoyé les deux et on a eu des réponses vraiment super du directeur de l'hôpital lui-même qui n'avait aucune obligation de me répondre hein, et qui m'a répondu une lettre en me disant qu'il était personnellement concerné, qu'il était absolument désolé, mais en plus vraiment concerné, qu'il en avait parlé à la sage-femme qui s'était dite très étonnée et meurtrie de la façon dont j'avais vécu les choses. Et que il a dit voilà, ça n'aurait aucun sens de la sanctionner parce qu'elle est partie à la retraite maintenant. C'était donc plus de 15 jours après. Mais sachez vraiment voilà, et que si jamais vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas. La chef de service, pareil, très humaine. Tu vois, j'ai senti que c'était pas, c'était pas une question d'image. Il me répondait pas juste pour dire qu'il répondait aux femmes qui avaient subi des violences, tu vois. Il y avait vraiment, ils étaient concernés par le truc et ils avaient du mal à accepter que ça se soit passé dans leur hôpital. Enfin, tu vois, ça, vraiment, ça, j'ai senti que c'était... Voilà, bon, finalement, je ne les ai pas rencontrés parce qu'en plus, après, il y a eu le confinement, le Covid, qu'ils avaient bien d'autres choses à faire. Mais ça m'a... J'ai senti qu'il y avait il y avait au moins une réparation morale qui était en train de se passer. Le fait d'être écouté, c'est hyper important. Donc voilà, donc j'ai reçu ces courriers-là. Et ensuite, confinement. Pendant le confinement, alors j'étais évidemment dans un tunnel avec les trois, mon mari qui télétravaillait un peu. Tu vois, c'était. Donc je me suis pas posé 10 000 questions, mais par contre, j'ai vite senti qu'il y avait un problème parce que je pleurais en moyenne entre 2 et 3 heures par jour, sans savoir du tout vraiment ce qui se passait. Donc il y a même un moment où je me suis dit je suis en train de faire une dépression du postpartum parce que c'est pas possible de pleurer autant. C'était surtout le soir au moment de me coucher, mais c'était pas des petites larmes, c'était des sanglots vraiment. Donc j'ai une amie que j'appelle souvent, on s'appelle mutuellement souvent, on se soutient beaucoup dans nos maternités et je me souviens de l'avoir appelée à minuit plusieurs fois en disant mais je m'en sortirai pas, je comprends pas, ça va pas, j'arrête pas de pleurer. Et ça a duré jusqu'au mois de septembre, tu vois. Ces crises de larmes comme ça. Alors, ça durait plus de 2 heures, mais c'était quasiment quotidien. Et dès que je me couchais, une espèce de montée de larmes, comme si je lâchais la journée. Alors, j'ai aussi beaucoup tenu de choses, hein, cette année, comme toutes les mamans, hein, cette année. C'était comme une année particulière. Donc, il y avait certainement beaucoup de pression, beaucoup de peur du Covid, de ce bébé qui a les bronches un peu fragiles, de plein de choses. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui passait pas. Et en fait, donc je me suis fait aider par une psy. Et à un moment, la psy, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, des nuits où je dormais pas du tout. Et même si mon bébé dormait, alors ça n'a encore une fois, ça n'a jamais affecté notre lien avec mon bébé. Et j'ai tout de suite été très très maternelle comme avec les autres et j'ai jamais eu ni de rejet ni de et je voyais qu'il allait bien et c'est ça qui est fou, c'est que lui il allait très bien, il avait pas de problème pour manger, pour dormir, oui, comme un bébé, mais il y avait pas de trouble, il y avait je sentais, j'avais une intuition, etc. Et puis donc je me suis fait aider par une psy et à un moment ça n'a plus suffi la thérapie juste comme ça, en plus c'était à moitié en visio, et donc j'ai trouvé une psychologue spécialisée en périnatalité à Paris qui pratique ce qui s'appelle l'ICV, donc c'est l'intégration des cycles de vie, et en fait c'est de t'aider, c'est un peu comme le MDR mais en beaucoup plus doux, et en fait ça t'aide à passer les traumas, et quand elle m'a dit ça, j'ai une espèce d'illumination, en fait je me suis dit je suis pas en dépression du postpartum, je suis en stress post-traumatique, et c'est vraiment tous les symptômes, alors qui peuvent faire penser à une dépression du postpartum, mais c'est vrai que ce qui me marquait c'était cette question du lien qui n'était pas du tout affecté avec mon bébé, ni d'un côté ni d'un autre, et puis j'avais pas d'idées noires, parfois un petit peu, mais tu vois, rien à voir avec la dépression du postpartum dont on parle. Et d'ailleurs, ma psy me disait tout le temps, le jour où vous avez une idée noire, Aurélia, vous m'appelez tout de suite. Enfin, voilà, elle savait que c'était un des trucs auxquels il fallait faire attention. Donc j'ai entamé cette thérapie-là, et au bout de quelques mois, ça allait mieux. Et du coup, si tu veux, c'est... Ouais, ce qui me marque vraiment, c'est le... C'est ces crises de larmes et cette espèce d'impuissance de se dire j'ai pas pu empêcher ça. J'ai pas pu empêcher cette femme de me faire ça. J'étais pourtant tellement informée, tellement. Enfin, je veux dire, s'il y avait une personne qui devait ouvrir sa gueule, c'était moi. Et je l'ai pas fait. Donc, il y avait aussi une forme de bizarrement, de culpabilité. Alors, envers mon bébé et moi et mon mari, mais aussi envers les autres femmes, tu vois. Un truc de. J'aurais dû mettre un stop parce que du coup elle le fera peut-être plus avec d'autres femmes ou je me disais mais combien de femmes elle a violenté comme ça, enfin impunément, comment tu vois, il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus universels en fait qui me voilà. Donc évidemment je suis très touchée par le mouvement en ce moment qui a été initié par Anna Roy, même si moi c'est ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, évidemment que cette femme-là, si jamais il y avait eu une sage-femme pour une femme depuis le début de sa carrière, elle en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais moi, le jour J, une sage-femme pour une femme, c'est pas ça qui aurait changé. On peut aussi tomber sur juste des personnes maltraitantes, peut-être malgré elles ou par leur situation. Mais là, elle avait rien à gérer en même temps, quoi. C'était pas, c'était vraiment. Elle a passé une frustration et un énervement et je sais pas, une colère, une grande détresse certainement sur moi. Moi, j'ai été très réceptive à ça aussi, je pense. Peut-être que j'aurais dû mettre plus le holà, tu vois. Mais bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, donc on fera pas l'histoire. Mais c'est ouais, en fait, ça arrive à tout le monde, y compris les gens très informés. Peut-être que ce qui aide quand on est très informé, c'est qu'on a tout de suite conscience que c'est pas normal et qu'on a tout de suite conscience qu'il faut en parler et qu'il faut le dire. Et en fait, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est d'écrire quand on ressent un truc, même si on n'a jamais de réponse, même si au moins d'écrire, ça pose les choses factuellement sur le papier, ça informe. La partie adverse ou l'autre partie qu'on a ressenti ça. Et je pense qu'il faut dire, quand ils dépassent les bornes, les soignants, ils sont humains. Et j'imagine même pas ce qui a dû se passer pendant toute cette période de Covid. Je pense que c'était vraiment très dur. Mais voilà, tu vois, si mon témoignage peut apporter ça.
Oui, parce que tu disais que sur le coup, en fait, t'osais pas non plus parler face à quelqu'un du corps médical.
Peut-être que j'aurais osé si j'étais pas en train d'accoucher. Je sais pas. Tu vois. Mais l'accouchement, t'es quand même dans le moment le plus vulnérable de ta vie. Physique. Enfin, c'est, tu vois. Donc, en fait, quand je me refais le film, je me dis, j'aurais voulu faire autrement, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? En vrai. Parce que ça aurait pu aussi être catastrophique que je fasse différemment. Tu prends la décision au moment M qui te paraît la plus judicieuse sans connaître l'avenir. C'est facile de se dire j'aurais dû faire ça quand tu connais l'avenir. Mais tu vois, quand tu le connais pas, donc non, j'ai pas osé et j'ai même muselé mon mari. J'ai même interdit mon mari de dire quoi que ce soit, quoi. J'avais super peur. J'avais super peur.
Et alors le fait que cet accouchement qui était préparé, que tu voulais physiologique, se soit passé finalement très médicalisé et dans la violence, est-ce que tu arrives à faire ton deuil de cet accouchement qui ne s'est pas déroulé comme tu voulais? Est-ce que vous souhaitez avoir d'autres enfants?
C'est en discussion. C'est dans le... Tu vois, on verra. Moi, dans l'idée, pourquoi pas. Je sais que si jamais un jour j'ai un quatrième enfant, la préparation sera différente et il faudra que ce soit bien digéré tout ça avant pour pas faire renaître des angoisses à ce moment-là. C'est sûr que je sais pas si un jour j'ai un autre enfant, si j'accoucherai en maison de naissance ou tu vois ou dans un endroit. Dans ces cas-là, peut-être de base moins médicalisé, mais comme finalement mes accouchements se passent bien médicalement. Bon, j'ai pas forcément besoin d'accoucher dans un niveau 2 ou 3, donc est-ce que tu vois, je ferai encore une fois les choses différemment, mais oui, ça m'a pas dégoûté en tout cas de ça.
Est-ce que tu sens un besoin de réparer un peu
C'est intéressant. J'ai eu ça beaucoup pendant les premiers mois de mon fils là, où en fait j'avais beaucoup de mal à me dire que c'était mon dernier accouchement et mon dernier bébé, de rester là-dessus. Et puis aussi de quitter cet état de tout petit bébé que j'adore. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais le sujet de l'accouchement, j'ai quand même l'impression d'avoir réparé quelque chose. Après, je suis pas guérie, hein, très clairement, je suis pas guérie. C'est encore très vif. J'ai encore des flashs qui me reviennent. Et puis là, en préparant le podcast, forcément, tu vois, je me suis remise dans ce que j'avais écrit, dans tout ça, et ça a quand même été violent. Et en fait, c'est une chiropracticienne, tu vois, que j'ai rencontrée, qui m'a fait une ou deux séances, où elle m'a dit, en fait, Aurélia, ce que vous avez subi, c'est des violences aggravées, et il faut que vous le disiez, ça. Et ça m'a beaucoup aidée, tu vois, dans la légitimité de ressentir ce que je ressentais. Et l'autre chose qui m'a aidée, c'est que, elle, cette femme-là, et même l'ostéopathe que j'avais vu pour mon fils juste après la naissance, elles m'ont toutes les deux dit qu'il allait bien. Que lui allait bien. Et les phrases qu'elles m'ont dites les deux, c'est en fait vous avez tout pris sur vous. Vous l'avez protégé de tout ça pendant l'accouchement. Et lui il va bien et il a pas ressenti les choses comme ça. Et en fait ça, je vois pas ce qu'il y a de plus belle récompense que ça, tu vois. Enfin parce que si en plus mon bébé allait pas bien ou avait des troubles ou pas forcément physique, tu vois, mais où je sentais que c'était pas un bébé épanoui, qui souriait pas, ou je sais pas. Là, si tu veux, ça aurait été 10 fois pire. Donc,
tu vas surveiller ça?
Ouais, je vais surveiller. Je le surveille déjà de base pour mes enfants, mais pour lui, ouais, je vais surveiller. Je vais surveiller. Après, là, je suis vraiment très rassurée à ce niveau-là. Hein, tu vois, franchement, là, tout va très bien, sauf le sommeil qui est encore compliqué. Mais bon, voilà. Franchement, c'est insoupçonnable. Il va super bien. Donc voilà. Et après, oui, il y a le deuil de l'accouchement idéal, mais ça, on l'a toujours parce que je pense qu'on n'a jamais exactement l'accouchement. Voilà. Mais en fait, que je retiens encore une fois, si cet accouchement avait été médicalisé pour des raisons médicales, si tout ça, on me l'avait imposé pour des raisons médicales, même la péridurale et tout ça, j'en sais rien, ça aurait été hyper différent. Là, c'était volontairement qu'elle a pas suivi mes recommandations, c'était enfin mes désirs, c'était, je me suis sentie trahie, salie, enfin voilà, avec une violence inouïe physique, morale, psychologique, affective, émotionnelle, tout y est passé quoi. Donc ça c'est ça met un peu de temps quand même. Ça met un peu de temps. C'est clair. Aujourd'hui je vais bien, franchement je vais mieux, je reprends ma vie à moi, ma vie en main, etc. Mais j'ai encore parfois des montées de boules de larmes qui sortent pas, mais des montées d'émotions, de choses. Puis je me rends compte de tout le chemin parcouru aussi, et je suis assez fière de cette reconstruction aussi là. Et je lui en parlerai à mon fils parce que ça fait partie de son histoire. On lui en a déjà parlé, mais ça fait partie de son histoire. C'est important qu'il le sache parce que ça peut pas être anodin complètement, inconsciemment. Et puis qu'il sente surtout pas que ce puisse être de sa faute, je sais pas quoi, parce qu'elle lui a quand même dit des choses violentes à lui aussi, hein, lui disant tu fais mal à maman, dis donc, tu descends pas assez vite,
oui.
T'es pas dans le bon sens, retourne-toi. Enfin, donc en fait, ça aurait pu ça aussi le troubler. Donc voilà, tu vois, c'est
tout. Elle l'a un peu accueilli en lui disant qu'il faisait déjà tout de travers, quoi.
Ouais. Ouais, complètement. Donc nous on répare ça à côté et je pense que c'est bon là-dessus. Il est assez sûr, mais enfin assez sûr en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que ce qui est terrible dans les violences obstétricales, gynécologiques, et bon là c'était quand même très fort. Donc je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de femmes après un accouchement comme ça qui se soient dit que l'accouchement avait été normal. Mais c'est très souvent quand même on se sent pas légitime dans cette douleur, dans cette souffrance là parce qu'on se dit si elle l'a fait c'était pour une raison, quoi. Tu sais, c'est la suprématie de la blouse blanche. Enfin, c'est blouse rose, mais c'est le côté, bah c'est elle qui sait, c'est elle la médecin, c'est elle la sage-femme, c'est elle qui sait. Alors moi j'avais un peu dépassé ce stade-là parce que c'était ma troisième grossesse, donc je savais que c'était moi qui connaissais mieux mon corps que tout le monde et mieux mes bébés et tout ça, mais il y a quand même une forme d'emprise et de pouvoir que les médecins, enfin que les soignants ont sur les femmes à ce moment-là. Et c'est peut-être ça dont il faut prendre le plus conscience, c'est de cette emprise. On est de base dans une situation inférieure, surtout en hôpital ou en structure maternité, etc. On arrive de base dans une posture un peu inférieure, donc il faudrait du coup redoubler d'attention envers nous pour nous laisser prendre l'action dans notre... être active dans notre accouchement, en fait.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
À peu près tout. À peu près tout. J'étais très anxieuse, j'étais très... voilà, je me suis, ça m'a apaisée, ça m'a révélée, ça a été... ça m'a complétée. Tu vois, c'est un truc... Ouais, ça a vraiment tout changé. Et d'ailleurs, mon entourage qui me connaît depuis très longtemps me dit qu'il y a un avant, il y a un Aurélia d'avant et un Aurélia d'après, et encore plus au fur et à mesure des enfants et de l'assise dans ma maternité, que je m'impose plus aussi et que je m'impose sur mes choix, que j'ose dire un peu. Sur en quoi je crois, ce que je veux faire, c'est... Ouais, je prends confiance, j'ai pris confiance, ça m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman parisienne, alors je suis pas tout à fait maman parisienne, je suis maman d'à côté de Paris, du coup j'ai l'impression de respirer par rapport à quand j'habitais dans Paris. Voilà, c'est une maman speed. Qui a un peu à 100 à l'heure, mais qui a plein de choses à sa portée pour faire grandir et épanouir ses enfants. Je pense que j'aurais du mal à habiter autre part, moi. En tous les cas, maintenant, de leur offrir toute la richesse que ça apporte d'être ici. Et puis, c'est un peu l'univers de tous les possibles, je trouve, d'être à Paris.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Alors en ce moment, bon, pas des masses, mais celui que j'aime beaucoup, c'était à côté de chez moi, dans le 15e, c'est une boutique concept store café qui s'appelle Mombini, et j'adore les gérants, ils sont adorables, et ils ont toujours une sélection de jouets géniale, et ils font des ateliers, et il y a aussi un espace de jeu où on peut prendre un café, où les enfants gambadent en toute sécurité, et leur latte est hyper bon.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors mes projets rien que pour moi, là c'est je réfléchis à l'écriture d'un livre, et c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, donc j'espère qu'il va se concrétiser. Et puis comme je te disais, de moduler un peu ma vie professionnelle, donc c'est en cours de réflexion tout ça. Et les projets en famille, de faire grandir tout ce petit monde-là du mieux possible. 3, c'est un chiffre particulier aussi. Il y a l'aîné, celui du milieu, le troisième. Voilà. Donc, d'arriver à ce que tout le monde trouve sa place. Je trouve que là, on est un peu dans ces problématiques-là en ce moment. Donc, c'est ça mon objectif.
Merci beaucoup, Aurélia.
Merci à toi, Shane.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélia, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 72 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.